classique, vous avez dit classique. Une émission présentée par Laure Schnapper.
Bonsoir à tous. Ce soir, un invité va nous présenter le livre qu'il vient de faire paraître. Il s'agit de Jean-Michel Ferrand pour son livre qui vient de paraître donc chez Edam Musicae, intitulé « Odette Gartenlaube, les vies multiples d'une musicienne du XXe siècle ». Jean-Michel Ferrand, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes musicien, diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et de l'Université Paris-10-Nanterre pour la philosophie. Je ne me trompe pas.
Oui.
Vous avez dirigé pendant presque 30 ans le Conservatoire Paul Ducat à Paris dans le 12e arrondissement. C'est le conservatoire du 12e arrondissement.
Voilà, le Conservatoire Paul Ducat.
Et vous avez été surtout, enfin en tout cas ce qui nous concerne ce soir, l'élève d'Odette Gartenlaube, que tout le monde ou presque connaît en fait souvent sans le savoir, en particulier les élèves qui font de la musique dans les conservatoires, oui. Puisque c'est elle qui a, on va en reparler, qui a conçu les cours de formation musicale, l'appellation qui a remplacé les anciens fameux cours de solfège. Et c'est vrai qu'on ne sait plus maintenant, peut-être toujours, que c'est Odette Gartenlaube qui est à l'origine de cette réforme. Mais dans votre livre, vous allez plus loin que la simple pédagogue. Vous montrez toutes les facettes de cette musicienne dont la famille avait fui les pogroms. Et on va ensemble, si vous voulez bien, revenir un petit peu d'abord sur sa vie. Donc, je vous laisse la parole pour ses débuts. Hein. Et d'abord, peut-être juste avant qu'on commence, pourquoi est-ce que vous avez eu l'intention de d'écrire ce livre, finalement, qui est un livre d'hommage ?
Oui, exactement. C'est un livre d'hommage puisque, effectivement, vous l'avez dit, j'étais l'élève puis l'assistant d'Odette Gartenlaube et je crois surtout son ami, même son fils spirituel, c'est ce qu'elle m'a écrit. Donc, elle nous a quittés il y a 3 ans, donc en septembre 2014. Et je me devais intimement de faire cet hommage parce que je lui dois beaucoup de ma vie musicale et de ma vie personnelle. Voilà, donc c'était un hommage que je devais lui rendre. Donc pour revenir sur sa carrière, donc votre question initiale, effectivement, Odette Gartenlaube est née à Paris de juifs immigrés d'Europe centrale, hein, qui avaient fui de deux familles en fait, qui se sont retrouvées fuyant les persécutions à la fin du 19e siècle. Elle est née à Paris dans une famille assez pauvre. Le père était horloger, travaillait beaucoup. Et en fait, rien ne l'a prédestinée à être musicienne, en tout cas être la musicienne exceptionnelle qu'elle a été, sinon ben des dons exceptionnels que sans doute elle tenait de ses origines, de sa famille. Sa mère chantait beaucoup et elle-même très tôt a manifesté des dons pour la musique, pour le chant, que sa mère a tenu absolument à développer le plus rapidement possible.
Alors que sa mère n'était pas du tout musicienne professionnelle.
Mais elle adorait la musique. Elle la conduisait tous les dimanches, alors qu'elle avait à peine 2 ans. Elle la conduisait à écouter des opérettes. À l'époque, c'était le divertissement favori dans les opérettes. Et Odette rentrait, mais très jeune. À 4 ans, elle chantait par cœur des airs qu'elle avait entendus. Voilà. Et c'est ainsi d'ailleurs que l'un des clients de son papa, qui était musicien lui-même, et a entendu chanter cet enfant, croyant que c'était sa mère, et a dit, mais il faudrait lui faire donner des cours de musique. Et c'est tout à fait fortuitement que les choses se sont...
Ça a commencé.
Se sont, voilà, ont débuté. Ouais.
Donc, elle s'est mise ensuite au piano.
Voilà, donc, le projet initial était de chanter, puisque dans la famille, tout le monde chantait. Et elle avait une très jolie voix, mais très justement, du reste, son premier professeur de solfège lui a dit, mais pour chanter, il faut pouvoir s'accompagner piano, donc on va débuter le solfège et aussi le piano.
D'accord.
Et la révélation, ça est allé, ses études ont été fulgurantes de rapidité, tellement elle était douée.
Donc elle était très douée, et très, là très vous douée. Racontez, c'est intéressant, comment son professeur lui a dit que, comme elle était très douée, qu'il fallait qu'elle prépare le conservatoire, etc., elle a abandonné l'école.
Oui, à son grand regret, ça a été vraiment un regret jusqu'à ses dernières heures, je crois. Elle a abandonné l'école. Elle a bénéficié pendant un an, j'explique dans mon livre, c'était assez intéressant, d'une expérience, puisque c'est la directrice de son école. Elle était douée également pour l'école. Donc, voyait partir cet élève avec regret et lui a proposé de partager son temps. Elle allait à l'école le matin, elle travaillait son piano l'après-midi. Donc, c'était la préfiguration de ce qui est aujourd'hui les horaires aménagés ou les cursus.
Les fameuses CHAM, voilà, les classes à horaires aménagés.
Qui n'existaient bien sûr pas à l'époque et qui étaient vraiment individualisées pour Odette. Et ça n'a tenu qu'un an, puisque son professeur, c'était en cachette de son professeur de piano. Et lorsqu'elle l'a découvert, elle a exigé de la famille qu'Odette stoppe l'école et qu'elle travaille uniquement la musique toute la journée.
Ouais, ce qu'elle a évidemment regretté. Et alors, ensuite, elle est entrée au conservatoire.
Elle est rentrée très vite au conservatoire, fulgurante de ses études de solfège, ses études de piano, puisqu'elle sort du conservatoire à peine 14 ans, dans la classe de Marguerite Tollon, la grande pédagogue de l'époque, avec un premier prix à l'unanimité. Voilà, et puis il y avait quand même cette année-là des grandes pianistes, puisqu'il y avait Annie Darcot, il y avait Geneviève Joie qui passait le concours en même moment. Okay. Et c'est Odette Gartenlaube qui a remporté le premier prix.
Et ça, c'était avant la guerre ou après ?
C'était en 1936, donc c'était avant la guerre.
Ah oui, c'était avant. Parce que alors, vous racontez, donc, effectivement, on a reparlé d'Odette Gartenlaube au moment où il y a eu le colloque sur la vie musicale sous Vichy. Mmh. Puisque c'était ça a été un témoin qu'on a entendu à cette époque-là. Moi, j'étais là, donc je l'ai entendu, et c'était assez émouvant de la manière dont elle avait été renvoyée avec le statut des Juifs en 40 du conservatoire.
Oui. Alors ça, c'est curieux. Moi, qui étais vraiment très intime avec elle, j'avais compris que c'était un sujet qu'elle ne souhaitait pas. Dont elle ne souhaitait pas parler. Je la connaissais donc depuis le début des années, à la fin des années 70, et jamais on n'avait évoqué ça.
Et vous ne saviez pas d'ailleurs toute cette aventure.
Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas exactement. Elle a, comme si elle avait un petit peu occulté la chose. Et effectivement, à l'occasion de ce débat, elle a décidé de prendre la parole. C'est-à-dire qu'elle avait mis une croix, et elle a décidé de dire sa vérité, puisqu'elle allait un petit peu à l'encontre de la version un peu lisse de l'histoire. Et elle a dit sa vérité, qu'effectivement, elle a été renvoyée du conservatoire. Ce n'était pas la seule, hein, puisque tous les élèves juifs ont été renvoyés du conservatoire.
Les professeurs. Et les professeurs. Lazare Lévy.
Voilà, Lazare Lévy notamment, qui a été son professeur, Maurice Franck. Voilà, et donc elle a été renvoyée. Et surtout, ce qu'elle racontait ensuite, c'est que, bon, elle a été renvoyée, elle disait, bon, les gens, dans sa grande clémence, ils ont obéi à des ordres, on ne peut pas trop l'en vouloir, c'était comme ça à l'époque. Mais ce dont elle a beaucoup souffert, c'est quand elle est revenue, de ne pas avoir ne serait-ce qu'un mot de la part du directeur, Claude Delvincourt, qui par ailleurs... C'était ça le problème. Par ailleurs, elle avait des choses formidables pour les élèves du conservatoire pendant la guerre. Là, il venait de prendre ses fonctions en 1942 quand il a effectivement eu le renvoi des élèves et des professeurs. Et bon, quand elle est revenue au conservatoire en 1944, voilà. En tout cas, pas lui. Il lui a juste dit bonjour et elle attendait quand même qu'il la convoque dans son bureau. Ce n'était pas une élève anonyme, elle avait déjà son premier prix, elle avait fait des études d'harmonie, elle avait fait des études de composition. Voilà, elle attendait un peu.
Le rôle de Delvincourt est assez mitigé.
Voilà, il y a quelque chose d'un petit peu ambigu.
C'est ni noir ni blanc, c'est un peu gris.
Donc pour elle, c'était vraiment quelque chose de douloureux qu'elle a contenu pendant des années. Et je crois qu'elle était heureuse, en fait. Elle a eu beaucoup de courage, parce que, par exemple, son histoire avec Jacques Chaillet, qui la poursuivait et qui, vraiment, avec cruauté dans les couloirs du conservatoire. Et Jacques Chaillet, c'est quand même ça a été un grand musicologue, rien n'enlève à ses qualités de musicologue. Mais voilà, ça a été très dur. Et quand elle a donné son témoignage, beaucoup l'en ont voulu, parce qu'elle détruisait un petit peu certaines images, notamment celle de Delvincourt.
Ouais. Voilà. Et elle a contribué à un peu casser le mythe.
Voilà.
De Jacques Chaillet. Alors, ensuite, on va donc parler peut-être cet aspect pianistique, puisqu'elle a été aussi assistante de Jeanne-Marie Darré au conservatoire en 1958. Et vous nous avez apporté un enregistrement d'un concert qu'elle a enregistré avec l'Orchestre national de France, parce qu'elle a une relation très étroite avec le chef d'orchestre qui avait fondé l'Orchestre national, Engelbrecht. Qu'elle avait rencontré en 1954, si je suis bien votre livre,
exactement,
si j'ai bien lu.
Oui, parfaitement.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'enregistrement que vous nous avez apporté avant qu'on l'entende ?
Alors, c'est Odette, justement, après cette rencontre qui a été occasionnée par son disque, qui a remporté le premier Grand Prix du disque, le Grand Prix du disque, son disque Debussy, où elle accompagnait une cantatrice qui s'appelle Flore Vint. Et Flore Vint était allée voir Engelbrecht, qui était vraiment, alors lui, vraiment le fils de Debussy, puisqu'il avait créé toutes ses œuvres, il avait beaucoup échangé avec lui, il avait des partitions annotées de la main de Debussy. Donc Flore Vint avait proposé d'aller jouer son programme à Engelbrecht. Engelbrecht a beaucoup apprécié, mais il a surtout beaucoup apprécié la pianiste. Et c'était pas le seul, du reste, à l'époque. Hein, beaucoup, Perlmutter disait aussi que c'était la plus grande pianiste française de l'époque. Et donc, il l'a prise vraiment en affection, sous en affection aile, musicale. Mmh. Et il l'a beaucoup aidée, d'autant qu'Odette n'était pas une nature à se faire valoir, à aller frapper aux portes.
Oui, vous montrez comme elle était complexée aussi.
Timide, voilà. C'était, n'était pas née dans ce milieu musical effervescent.
Donc il a joué un grand rôle dans sa carrière.
Il a joué un grand rôle et justement, il l'a fait beaucoup jouer avec l'Orchestre National, qui était quand même ce qu'il y avait de mieux à l'époque, et plusieurs concertos. J'ai choisi le concerto de Schumann parce que Schumann et Debussy étaient ses compositeurs préférés. Et qu'elle disait elle-même, d'ailleurs, je mets la citation qui est très touchante dans le livre, qu'elle aimait ce concerto, elle l'aimait d'amour.
Très joli. Alors, écoutons donc Odette Gartenlaube dans le deuxième mouvement, le mouvement lent du concerto de Schumann. Alors, Odette Gartenlaube, pianiste, nous venons de l'évoquer avec vous, Jean-Michel Ferrand, pour votre livre dont je répète le titre, hein, Odette Gartenlaube, les vies multiples d'une musicienne du XXe siècle. Alors, vous parlez justement de vies multiples, c'est que Odette Gartenlaube n'était pas seulement pianiste, elle a voulu très vite aussi devenir compositrice. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, bien sûr. Donc, Odette a eu son prix de piano très jeune, puisqu'elle avait 14 ans. Et elle était promise, comme à l'époque, à une carrière de pianiste, qui était habituelle. On sortait du conservatoire. Mais c'est une chose qui, dès lors, elle avait à peine 14 ans, ne lui suffisait pas. Voilà, elle n'était pas satisfaite de ne jouer que du piano. Elle avait des envies musicales beaucoup plus larges. Et elle souhaitait faire de l'harmonie, apprendre l'histoire de la musique. Voilà, elle souhaitait faire des études très complètes de musique. Elle composait déjà un petit peu, ce qui l'a fâché du reste avec Marguerite Long, qui n'envisageait pas les choses de la sorte, qui a décidé de plus du tout l'aider. Donc Odette, malgré cela, a décidé donc de faire ses études. Elle a rencontré des grands musicologues, Maurice Emmanuel, Jean Lalois, enfin toutes ces grandes personnes. Elle a travaillé avec Noël Gallon, qui l'a beaucoup aidé pendant la guerre. Elle a travaillé avec Bussert, donc de l'harmonie, du contrepoint, de la fugue. Et malgré l'interruption forcée donc de la guerre pendant son renvoi, elle obtient le premier Grand Prix de Rome. En 1948.
Ce qui est rare quand même pour une femme, il n'y en avait pas encore beaucoup.
Voilà, c'était à peine la cinquième femme de l'histoire à l'obtenir. Voilà, c'était un très très grand moment. Et dès lors, sa vie va osciller, j'allais dire, entre sa vie de pianiste et sa vie de compositrice.
Alors, vous, dans votre livre, à la fin du livre, vous présentez le catalogue de ses œuvres. Et j'étais quand même étonnée de son ampleur. Il y a quand même beaucoup de choses. Elle a beaucoup composé pour piano, pour musique de chambre.
Oui, effectivement.
Mais aussi ce concerto que vous nous avez apporté. Ce concerto pour flûte et orchestre.
Voilà, alors ça c'est une des caractéristiques du catalogue de compositrices d'Odette Gartenloup, c'est qu'elle s'est beaucoup intéressée aux instruments avant, et en particulier au cuivre, ce qui n'était pas très habituel à l'époque, surtout pour une femme j'allais dire, mais c'est certainement un souvenir qu'elle avait d'enfance, puisque elle racontait que sa mère était obligée de l'arrêter devant les orchestres de rue quand elle était dans son landau, vous voyez, donc elle était très très jeune, pour écouter ces orchestres d'instruments avant qui visiblement la fascinaient dès le début. Et elle a écrit énormément pour cuivre, pour trompette, pour trombone, pour tuba, pour ensemble de cuivre, pour ensemble avant. Alors, bien sûr, la flûte n'est pas mais c'est un instrument avant. Et c'est certainement l'œuvre d'elle qui a été le plus jouée par les plus grands. Je vous ai apporté un enregistrement avec Raymond Guillot à la flûte, qui était le soliste de l'orchestre de l'opéra, qui est un des meilleurs flûtistes vraiment de la génération, dirigé par Rosenthal, par Noël Rosenthal, qui est un immense chef. Et c'est un très très bel enregistrement de ce concerto pour flûte.
Alors nous les comptons tout de suite. Alors, Jean-Michel Ferrand, nous venons d'entendre donc une œuvre d'Odette Cartenlaube, donc pianiste, compositrice, mais aussi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on la connaît toujours, grande pédagogue, puisqu'elle a remis en cause l'enseignement du solfège.
Oui, effectivement. Elle a un petit peu souffert de cette image qui est restée l'image un petit peu unique de sa fin de sa vie, de sa fin de vie de pédagogue. Et c'est pour ça que j'ai souhaité écrire ce livre et la restituer dans ses vies multiples, surtout de pianiste et de compositrice, parce que c'est quand même la principale de sa vie, puisque cette réforme de la formation musicale n'arrive qu'en 76. Donc vous voyez, elle est née en 22. Mmh. Donc c'est vraiment tout à fait la dernière partie de sa carrière. Et c'est, j'allais dire, presque aujourd'hui la seule partie émergée de l'iceberg qui reste quand on parle d'elle, et c'est pour ça que je voulais restituer cette vérité, parce que c'est important, je crois qu'on la connaisse dans tous ses visages.
Et vous qui avez été son élève, alors comment elle était comme professeur?
C'était un professeur passionné, c'est-à-dire qu'elle nous apportait tout. C'était une passionnée de musique, ouais. Elle ne pouvait pas vivre sans musique jusqu'à son dernier souffle, elle a écouté de la musique, c'était vraiment une femme musique. Tout le temps, et je crois que la réforme, c'est pas tout à fait elle qui l'a portée, hein. C'est Marc Bleuze qui l'avait initiée, donc il a fait appel à elle tout de suite, et ils l'ont portée tous les deux, et effectivement c'est elle qui en a été le héros à chahuter après et tout de suite, mais initialement c'était Marc Bleuze. Donc ce qui ressort de cette réforme, c'est que c'est la personnalité musicale d'Odette, c'est-à-dire qu'elle trouvait que le solfège était complètement dénué de musique. Elle avait souffert quand elle était jeune, puisqu'on lui a cassé sa voix en lui faisant chanter des choses qui n'étaient pas appropriées. Et donc, elle a décidé effectivement de remettre la vraie musique pour l'apprentissage. Elle disait, mais on apprend les lettres en lisant Montesquieu, La Bruyère, La Fontaine. On n'apprend pas en lisant des choses qui n'ont pas de sens. Or, pour elle, c'était ça. Redonner du sens à l'apprentissage musical par la musique.
Et alors aujourd'hui, cette formation musicale, elle fonctionne toujours dans le sens où elle le voulait ?
Alors ça a été aussi un de ses regrets, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été tout à fait comprise. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes se sont engouffrées dans cette brèche nouvelle sans en comprendre vraiment l'essence. C'est-à-dire qu'elle souhaitait que ce soit vraiment un apprentissage technique par la musique et non pas un apprentissage comme ça de musique. Et certains professeurs n'ont pas vraiment compris son message. Ça, elle en a beaucoup souffert parce qu'elle disait effectivement il faut apprendre et il faut continuer à apprendre par la musique, mais il faut apprendre. Et effectivement, trop de professeurs ont transformé leurs cours, j'allais dire, en récréation musicale. Et ça la faisait beaucoup souffrir. C'était pas du tout son projet.
Merci Jean-Michel Ferrand. Je rappelle le titre de votre livre, Odette Cartenlaube, Les vies multiples d'une musicienne du XXe siècle, qui vient de sortir aux éditions Edem Musicae.
Bonsoir. Je vous remercie.
Bonsoir.
Classique, vous avez dit classique, une émission présentée par Laure Schnapper.